Il nous aime. Il est parmi nous. Le Christ vous accueille.
Je me réjouis quand on me dit « Allons à la maison du Seigneur ».
Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, ta majesté s'élève au-dessus des cieux.
Mon Dieu, toi le roi, je veux proclamer ta grandeur et bénir ton nom pour toujours. Je te bénirai chaque jour, je t'acclamerai sans fin.
Le Seigneur est grand, infiniment digne d'être loué. Sa grandeur est sans limite. Que chaque génération annonce à la suivante ce que tu es et lui raconte tes exploits.
Je veux parler de ta majesté, de ta gloire, de ta splendeur. Moi, je veux méditer tes merveilles. Quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui?
Les cieux racontent la gloire de Dieu, et le firmament proclame l'œuvre de ses mains. Le jour en fait le récit au jour, la nuit en donne connaissance à la nuit.
Mon Dieu, toi le roi, je veux proclamer ta grandeur et bénir ton nom pour toujours. Je te bénirai chaque jour et je t'acclamerai sans fin. Le Seigneur est grand, infiniment digne d'être loué. Sa grandeur est sans limite. Je veux parler de ta majesté, de ta gloire, de ta splendeur. Moi, je veux méditer tes merveilles. Qu'il est bon de célébrer notre Dieu par nos chants, qu'il est agréable d'entonner sa louange.
Quand je sonde que tu as créé, les océans des mers, tout me révèle ta majesté.
Alors mon âme veut se crier de tout mon cœur, je veux chanter.
Tu es infiniment grand, éternel. Dieu, tu es mon sauveur. Je me confie en toi et je n'ai plus de crainte. Car l'Éternel, Éternel, tu es ma force. Tu es le sujet de mes chants. Tu m'as sauvé.
Tu es comme un rocher. Tes œuvres sont parfaites. Tout ce que tu fais est juste. Tu es un Dieu fidèle qui ne commet pas d'injustice. Tu es un Dieu juste et droit.
Il disait d'une voix forte, il est digne. L'agneau qui fut égorgé, de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse et la force, l'honneur et la gloire et la louange.
Dieu de gloire, je t'adore.
Ça va, on entend là? Alors, je vais faire court, on va vous envoyer dans vos groupes en bas. Mais avant, je vous ai préparé des petites cartes personnalisées avec un verset. Alors, je vais vous les distribuer. Vous pourrez faire des échanges si la photo ne vous plaît pas. Et puis ensuite, on va prier pour vous et vous pourrez descendre. Ah, il y a Simon qui veut aussi sa carte. Voilà, je donne à chacun une carte et puis derrière, je vous ai écrit un verset. Tu veux pas celui-là? T'aimerais mieux un oiseau? Non? Ben, je vais donner à la monitrice et puis elle vous donnera. D'accord? Tiens, un cerf. Ça, tu veux aussi un cerf? Voilà. Alors, ça ou le mouton? Le mouton plutôt. D'accord. Et puis toi? Voilà. Ça y est, puis je vais donner les autres cartes à votre monitrice et puis si jamais vous voulez changer, vous pouvez toujours. Voilà, je vais encore prier pour les moniteurs. Merci Seigneur pour tous ces enfants qui sont là ce matin. On te remet maintenant leur moniteur, on te remet le message qui va leur être donné pour que tu donnes la sagesse à chacun et que ces enfants entendent parler de toi. Amen. Alors maintenant que les enfants sont partis, c'est à vous de vous mettre au travail. Vous avez vu que je vous ai mis un petit post-it à chaque place. Et en lien avec le thème de ce culte, j'aimerais que vous notiez simplement un don que vous avez. Alors, je sais, quand je pose cette question, on me dit « Ah non, mais moi, je n'ai pas de don. Moi, je ne sais rien faire. » Eh bien, sachez qu'un don... Ça ne veut pas dire d'être envoyé à l'autre bout du monde. Alors réfléchissez, je vous donne une minute pour réfléchir et écrire un don que vous avez. Et vous en avez tous. Ça peut être simplement de l'écoute. Et c'est primordial dans une église. Alors je vous laisse inscrire ce qui vous tient à cœur. Oui, alors partagez-vous, j'ai mis plusieurs stylos, malheureusement j'en avais pas assez pour chacun, il y en a en principe un pour deux. Tu peux déjà... Vous n'avez pas à partager vos post-it. Certaines fois, on demande de les partager, là dans l'emploi du culte, on n'aura pas le temps, mais gardez-le pour vous, échangez-le avec certaines personnes, si ça vous dit, mais on ne vous demandera pas de... faire un partage de ces dons. C'est pour vous, avec le Seigneur.
Bonjour à chacun, à chacune. La complexité du corps humain ne cesse de me bluffer. Je suis admiratif devant la complexité du corps humain. Un doigt, un œil, un foie, un cœur. C'est étonnant de complexité et de précision. Et tout ça, à partir d'une seule cellule fécondée. Épatant. Mais quand une partie de notre corps est blessée ou malade, ben tout le reste s'en ressent. On peut perdre l'usage de certaines parties du corps, on peut devenir sourd, on peut devenir aveugle, on peut perdre un organe. Le corps est alors diminué, mais il vit quand même. Pensez un instant quand Beethoven a créé la 9e symphonie, il était sourd. Épatant. Un corps qui fonctionne bien, c'est une grâce. Mais en même temps, on sait qu'il peut s'adapter à toutes sortes d'handicaps et de faire face. Un corps qui fonctionne bien, c'est une grâce. Mais quand il fonctionne moins bien, il a une capacité d'adaptation phénoménale. Et voilà que la Bible présente parfois, souvent, l'Église comme un corps. Et la plupart du temps, c'est pour dire qu'il y a un seul corps et que Jésus-Christ est la tête de qui tout découle. Il y a de la diversité dans l'Église, mais l'Église reste unique. Elle a différents responsables, mais elle a un seul chef, une seule tête, c'est Jésus-Christ. Par-dessus toutes les divisions que l'ignorance et la méchanceté des hommes ont réussi à créer au fil de l'histoire, Jésus-Christ ne connaît qu'une seule Église, bien au-delà de toutes les étiquettes, non pas telle ou telle dénomination, même pas la fraie, mais l'Église qui est son corps et dont tous ses rachetés, toutes ses rachetées font partie. La grande Église. Cette Église-là, la grande Église, est-ce qu'on peut la voir? Est-ce qu'on peut la voir, la grande Église? Est-ce qu'on peut la voir en même temps, la grande Église? Ben, elle est en Australie, puis elle est en Chine. Puis elle est à Paris, elle est à Kigali, elle est à Séoul, elle est à Londres, et elle est à Mérin. Elle est dans les déserts, elle est dans les campagnes. Elle est dans des petits villages et dans des mégalopoles. Elle est sur la terre et elle est au ciel. On ne peut pas la voir, la grande Église. Mais on peut voir l'Église en miniature. S'il vous plaît, levez-vous quelques instants. Voilà, puis maintenant, prenez juste quelques instants pour regarder un peu autour de vous. Prenez quelques instants, regardez autour de vous. Regardez autour de vous. Juste quelques instants, regardez autour de vous. Voyez ces vies. Voyez ces visages. Voyez ces corps. C'est cela l'Église. C'est ça l'Église. C'est nous l'Église. C'est nous. et vous rasseoir. Et nous, nous sommes comparés à un corps. Nous. Nous sommes comparés à un corps. Avec ses différentes parties. Des nouveau-nés. Il y en a un qui va bientôt apparaître. Hein. Marie-Léa. Des enfants. C'est bien quand ils sont avec nous, les enfants. Ils font partie de l'Église, hein, maintenant. C'est l'Église, maintenant. Puis des ados. Les ados, c'est particulier. Passez voir un coup au caté. Moi, j'ai l'impression à la fois de rajeunir puis de prendre un coup chaque fois. Des ados, c'est génial, les ados. Des jeunes adultes. Des adultes dans la force de l'âge. Ah, 30 ans, ah, c'est le bonheur. 40, ça baisse un chouïa. 50, ça se complique. Et puis après, on sait, et généralement les aînés n'ont pas trop de difficultés à dire que c'est plus compliqué. Puis des hommes et puis des femmes. Et des Européens et des Africains. Et des Brésiliens et des Asiatiques. Et des riches et des pauvres, et des employés et des patrons, des gens en bonne santé et d'autres qui sont malades, des mariés, des divorcés, des veufs, des célibataires, des en recherche, parce que le célibat, c'est pas forcément l'évidence à vivre. Des gens qui ont eu des enfants, des gens qui ne peuvent pas en avoir. Des gens qui en ont perdu. Des gens doués pour la déco, pour la réalisation d'un PowerPoint depuis plusieurs semaines. C'est Barbara Jeunecamp qui prépare les PowerPoint. Elle est tellement douée. Moi, je lui file les trucs comme ça, deux, trois idées, les textes, puis regardez, elle prépare un PowerPoint, elle a tout compris. Moi, j'y arrive pas. Merci, Barbara. Des gens doués pour la déco, pour l'aménagement des salles, des enfants. Bah, si vous n'y êtes pas encore allé la semaine passée, il faut aller voir. Il y a un sacré boulot qui a été fait, et ce n'est pas fini. Des gens doués pour l'évangélisation, d'autres pour la musique, pour la cuisine, ou pour l'écoute, ou pour l'accueil, ou pour l'organisation, ou pour l'enseignement. Quelle diversité. Quelle beauté. Et voilà que les gens de l'église de Corinthe avaient tellement de peine avec la diversité. Les relations entre les riches et les pauvres n'étaient vraiment pas bonnes. Ni les relations entre les juifs et les non-juifs. Et la diversité des dons spirituels posait quantité de problèmes dans cette église locale de Corinthe. L'apôtre Paul leur a consacré pas moins de 3 chapitres, en 1 Corinthiens 12 à 14. Voilà un comble. Le Saint-Esprit unit à Christ et les uns aux autres. Mais les gens de Corinthe trouvaient là un prétexte pour se diviser. La diversité met un prétexte pour se diviser. De l'unité met un prétexte pour se diviser. Est-ce que c'est différent de nos jours? Ben non. C'est trop souvent la même chose. C'est souvent ces situations de division qui nécessitent des interventions toujours tellement difficiles et rarement, très rarement, couronnées de succès. Quand ça pète dans une église, ça pète. C'est très rare qu'on puisse résoudre la situation. Très rare. Alors entendons-nous bien. À Mérin, Dieu nous fait la grâce de vivre depuis longtemps une Église unie dans une réelle diversité. Mais ce n'est jamais gagné pour toujours. Nous devons veiller. Voyons donc comment l'apôtre Paul traite la question. Je vous propose ce matin de regarder un chapitre où l'apôtre Paul aborde l'un des nombreux problèmes de l'Église de Corinthe. C'est les mauvaises attitudes et les désordres qui viennent empoisonner les cultes. Au chapitre 11, il était question déjà de ces difficultés dans le culte en rapport avec des riches qui faisaient de la scène une parodie et qui par là méprisaient l'Église qui est le corps de Christ. Et au chapitre 12, ce sera le problème des super spirituels qui ne comprennent pas comment le Saint-Esprit agit dans l'Église. Ils pensent qu'ils ont quelque chose de plus que les autres et que c'est au culte qu'ils vont pouvoir le démontrer. Alors je vous invite à écouter la lecture du chapitre 12 dans Corinthiens.
Parlons maintenant des expériences spirituelles. Frères et sœurs, je désire que vous connaissiez la vérité à propos de ces dons. Vous savez que lorsque vous étiez encore païens, vous étiez entraînés de façon irrésistible vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare, aucun être inspiré par l'Esprit de Dieu ne s'écrie « Maudit soit Jésus » et personne ne peut déclarer « Jésus est le Seigneur » s'il n'est pas inspiré par l'Esprit Saint. Il y a diverses sortes de dons spirituels.
Mais c'est le même Esprit qui les accorde.
Il y a diverses façons de servir.
Mais c'est le même Seigneur que l'on sert.
Il y a diverses façons d'agir.
Mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous.
En chacun, l'Esprit Saint se manifeste par un don pour le bien de tous.
L'Esprit donne à l'un de parler selon la sagesse.
Et à un autre, le même esprit donne de parler selon la connaissance.
Ce seul et même esprit donne à l'un la foi.
Et à un autre, le pouvoir de guérir les malades.
L'esprit accorde à l'un d'accomplir des miracles.
À un autre, le don de transmettre des messages reçus de la part de Dieu.
À un autre encore, la capacité de distinguer les faux esprits du véritable esprit.
À l'un, il donne la possibilité de parler en des langues inconnues.
Et à un autre, la capacité d'interpréter ces langues.
C'est le seul et même esprit qui produit tout cela.
Il accorde à chacun, à chaque personne, un don différent, comme il le veut.
Eh bien, le Christ est semblable à un corps qui se compose de plusieurs parties. Toutes ces parties, bien que nombreuses, forment un seul corps. Et nous tous, juifs ou grecs, esclaves ou personnes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps, par le même Esprit Saint, et nous avons tous bu de ce seul Esprit. Le corps ne se compose pas d'une seule partie, mais de plusieurs. Si le pied disait
« Je ne suis pas une main, donc je n'appartiens pas au corps »,
il ne cesserait pas, pour autant, d'être une partie du corps. Et si l'oreille disait
« Je ne suis pas un œil, donc je n'appartiens pas au corps. »
Elle ne cesserait pas, pour autant, d'être une partie du corps.
Si tout le corps n'était qu'un œil, comment entendrait-il ?
Et s'il n'était qu'une oreille, comment sentirait-il les odeurs ?
En réalité, Dieu a disposé chacune des parties du corps comme il l'a voulu. Il n'y aurait pas de corps s'il ne se trouvait qu'une seule partie. En fait, il y a plusieurs parties et un seul corps.
L'œil ne peut donc pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi.
Et la tête ne peut pas dire non plus aux pieds, je n'ai pas besoin de vous.
Bien plus, les parties du corps qui paraissent les plus faibles sont indispensables.
Celles que nous estimons le moins, nous les entourons de plus de soins que les autres, Celles dont il est indécent de parler sont traitées avec des égards particuliers qu'il n'est pas nécessaire d'accorder aux parties plus convenables de notre corps. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur aux parties qui en manquent.
Ainsi, il n'y a pas de division dans le corps, mais les différentes parties ont toutes un égal souci les uns des autres. Si une partie du corps souffre, toutes les autres souffrent avec elle. Si une partie est honorée, toutes les autres s'en réjouissent avec elle.
Or, vous êtes le corps de Christ, et chacun de vous est une partie de ce corps.
C'est ainsi que dans l'Église, Dieu a établi premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, et troisièmement des enseignants. Ensuite, il y a ceux qui accomplissent des miracles, puis ceux qui peuvent guérir des malades, les personnes qui ont le don d'aider ou de diriger les autres, ou encore de parler en des langues inconnues.
Tous ne sont pas apôtres, ou prophètes, ou enseignants. Tous n'ont pas le don d'accomplir des miracles ou de guérir les malades, ou de parler en des langues inconnues, ou d'interpréter ces langages. Ainsi, désirez les dons les plus importants.
Ne trouvez pas étrange cette première partie du chapitre, au verset 3 en particulier? Comment peut-on imaginer que le Saint-Esprit inspirerait au milieu de l'Église une parole comme « Maudit soit Jésus » ? Comment est-ce que le Saint-Esprit pourrait inspirer une parole comme ça ? Maudit soit Jésus. Alors Paul écrit là à une église où les gens avaient l'habitude de fréquenter des cultes païens. Tomber en transe, parler en transe, perdre le contrôle, chercher à être comme possédé, pour les gens de Corinthe, c'était classique. La religion pour eux de leur temps, c'était comme ça. Et voilà donc que certains chrétiens de Corinthe imaginent que le Saint-Esprit fonctionne de la même manière que fonctionnent les cultes païens et qu'il faut tomber en transe et dire des choses étonnantes. Paul dit « ça va pas ». Non, stop, on arrête là tout de suite. D'abord parce qu'un chrétien ne se laisse pas entraîner aveuglément par n'importe quel esprit. Un chrétien ne se laisse pas aller à dire et faire n'importe quoi. Et ensuite, parce que les paroles prononcées dans l'Église doivent être évaluées. L'apôtre dira le même genre de choses au chapitre 14, qu'on méditera dans quelques semaines. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, les prophètes restent même maîtres d'eux-mêmes. Les prophètes restent maîtres d'eux-mêmes. On ne perd pas le contrôle. Ça, c'est un culte païen. Dans un culte chrétien, Paul est absolument clair. Le contrôle est gardé. Par ailleurs, il dira « examinez tout et retenez ce qui est bon ». Parce qu'il ne peut pas y avoir du moins bon et qu'il faut toujours faire le tri. Et le tri, vous allez le faire ce matin. Comme nous vous invitons à le faire chaque dimanche matin. Céline et moi, nous tenons à ce que le tri soit fait. Et s'il y a des choses qui vous semblent incohérentes dans nos paroles, vous devez venir nous le dire. Faites le tri. Ce qui se passe au culte, pour l'apôtre Paul, reste donc soumis au bon sens, aux règles de la bienséance. Il rappellera que Dieu est un Dieu d'ordre. Et surtout, ce qui se passe au culte reste soumis à Jésus-Christ, qui est la tête. Maintenant, reconnaissons avec cette question des dons spirituels que nous sommes dans une dimension qui n'est pas toujours évidente. Dans ce contexte, un peu plus loin, l'apôtre Paul dira, en Corinthiens 13, verset 12, « Dans le temps présent, je connais d'une manière partielle. Je ne maîtrise pas tout, je ne comprends pas tout. Il y a des choses qui m'échappent. » Et cela doit nous inciter à de l'humilité. Je ne comprends pas tout. Certains chrétiens de Corinthe pensaient tout savoir. Certains chrétiens d'aujourd'hui aussi pensent tout savoir. Mais pour ma part, je ne peux pas parler de ce chapitre sans reconnaître que certaines choses me laissent perplexe. Sur certains points, des chrétiens qui sont également respectueux de la parole de Dieu n'ont pas tous les mêmes interprétations, n'ont pas tous les mêmes pratiques, et cela pour au moins deux raisons. La première, c'est que Paul écrit à des gens qui ont suivi son enseignement de vive voix au moins pendant 2 ans et qui l'ont vu à l'œuvre. Ils connaissent le gaillard. Il peut donc supposer chez eux, chez les Corinthiens, un certain arrière-plan qui nous échappe à nous. D'où un peu d'humilité. Qu'est-ce qu'une parole de sagesse? Et ces langues, ce sont de vraies langues, apprises comme moi j'ai tenté d'apprendre l'anglais, ou miraculeuses? Ou est-ce que c'est un charabia qui ressemble à une langue? Il va mettre une prudence, hein, puisque les langues doivent être interprétées. Alors, bien sûr, on va avoir notre idée là-dessus, mais il faut avouer, en tout cas, moi j'avoue, qu'à ce sujet, une complète certitude m'échappe. Et je reconnais que des chrétiens qui aiment le Seigneur et qui respectent la parole ont une compréhension, peuvent avoir une compréhension différente là-dessus. Il nous faut rester humbles, humbles. La deuxième raison pour laquelle le consensus est parfois difficile à trouver, c'est que nous avons souvent tendance à partir de notre expérience personnelle pour interpréter les textes bibliques, au lieu de laisser le texte biblique venir donner sens à notre expérience. Souvent, nous partons de notre expérience personnelle. Si notre rencontre avec Dieu a été un vrai chemin de Damas, nous aurons tendance à penser que toutes les conversions doivent ressembler à ça. Si nous avons connu une traversée du désert et que tout d'un coup Dieu est venu nous réveiller, alors nous aurons tendance à penser que tout le monde a besoin d'une expérience pareille. Notre expérience peut être authentique, mais notre manière d'en parler peut manquer de clarté et d'objectivité. Nous devons donc être prudents. Et j'aborde donc ce chapitre et ces questions avec de l'humilité et avec de la prudence, mais aussi avec de la confiance et de la reconnaissance, parce que l'essentiel de l'enseignement de l'apôtre est tout à fait clair et profondément édifiant. Donc, pour les quelques minutes qui me restent, j'aimerais l'analyser au travers de 4 lentilles. 4 lentilles. L'universalité de l'action de l'Esprit dans l'Église, la variété de l'action de l'Esprit dans l'Église, la souveraineté de l'action de l'Esprit dans l'Église et la cohérence de l'action de l'Esprit dans l'Église. L'universalité de l'action de l'Esprit dans l'Église. Verset 3. Personne ne peut déclarer Jésus est Seigneur s'il n'est pas inspiré par l'Esprit Saint. Autrement dit, la vraie marque du chrétien, de la chrétienne, c'est de pouvoir dire que Jésus est Seigneur. un chrétien, une chrétienne, dit que Jésus-Christ est Seigneur. Et si nous pouvons le dire, c'est parce que le Saint-Esprit est entré en nous. C'est l'un des signes majeurs de la nouvelle naissance. Si vous pouvez dire que Jésus-Christ est Seigneur, alors le Saint-Esprit est avec vous. Ce n'est pas l'extase qui est le signe de l'Esprit. C'est confesser Jésus comme son Seigneur. Au verset 7, nous lisons qu'un chacun, l'Esprit Saint se manifeste par un don pour le bien de tous. Un chacun, chacune, l'Esprit Saint se manifeste pour le bien de tous. En chacun, en chacune, un chrétien qui n'aurait pas reçu l'Esprit Saint, qui n'aurait pas reçu un don de l'Esprit Saint, cela n'existe pas. Tous les chrétiens ont reçu l'Esprit Saint et au moins un don qui accompagne la réception de l'Esprit Saint. 1 Pierre 4, 10, nous en avons la confirmation pour que ça ne vienne pas que de Paul. Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier. Il ne faut donc pas écouter cette petite voix en nous qui dit que nous ne valons pas grand-chose, que nous n'avons pas de don, pas d'importance dans l'œuvre du Seigneur. Il ne faut pas écouter cette voix-là. Et il ne faut pas écouter non plus ceux qui nous dénonceraient en disant que nous n'avons pas tel ou tel don et que nous n'avons donc pas reçu le Saint-Esprit. Et le verset le plus fort dans ce contexte, on le voit au verset 13. Et nous tous et toutes, nous avons été baptisés pour former un seul corps par le même Esprit Saint. Et nous avons tous bu de ce seul Esprit. Tous et toutes. Tous et toutes. Si nous ne sommes pas dans ce tous et toutes, nous ne faisons pas partie du corps qu'est l'Église. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas, dit Paul en Romains 8, verset 9. Tous les chrétiens, toutes les chrétiennes, s'ils sont nés de nouveau, s'ils sont nés de l'Esprit, tous ont reçu l'Esprit et ont été baptisés dans l'Esprit. C'est l'Esprit qui fait de nous des enfants de Dieu, qui nous permet d'appeler Dieu Père, Abba Père, cher Seigneur. Peu importe nos différences de culture, de statut social, d'âge ou d'origine, l'action de l'Esprit dans l'Église, elle est universelle pour nous faire naître de nouveau, tous et toutes, pour nous intégrer tous et toutes dans un seul et même corps, pour nous équiper tous et toutes en vue du service de Dieu. On pense parfois que l'Esprit est comme donné à une élite. Mais non, il est, dit Paul, pour tous et toutes. On pense parfois que le baptême de l'Esprit diviserait des chrétiens en deux catégories. Mais non, le baptême de l'Esprit, il est pour tous et toutes. Il accompagne la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est impossible sans le baptême de l'Esprit. Et puisque l'action de Dieu se manifeste en tous et toutes, nous sommes en faute si nous n'en faisons rien. Ou alors l'Église est en faute pour ne pas avoir discerné, pour ne pas avoir valorisé tel ou tel service, tel ou tel don. La variété de l'action dans l'esprit, de l'Esprit dans l'Église maintenant. Notre Dieu est un Dieu créateur, infiniment généreux, infiniment grand, mais créateur. Il a voulu dans son monde une très grande variété de plantes, d'oiseaux, d'êtres humains, de végétaux. Il a voulu aussi qu'il y ait une grande diversité dans l'Église, entre autres une diversité de dons et de services. Et le verset clé ici, c'est le verset 4. Il y a diverses sortes de dons spirituels, mais c'est le même esprit qui les accorde. Il est important de comprendre ici le mot de don. En français, on peut faire un don à une œuvre humanitaire, un don à l'Église. Et c'est un cadeau. C'est un cadeau. On dit aussi que quelqu'un a un don pour la musique ou pour le jardinage, ou un don artistique, ou un don d'écoute. Dans le Nouveau Testament, un don, c'est toujours un cadeau sans contrepartie. Ce n'est pas un talent ou une aptitude particulière. C'est un don gratuit. C'est un don de la grâce. Le même mot, il est utilisé pour le don de la vie éternelle. Le don de la vie éternelle, ce n'est pas une aptitude, le don de la vie éternelle. C'est une grâce et c'est exactement le même mot qui est utilisé pour parler des dons spirituels. Nos dons, les dons que nous avons reçus, c'est un cadeau de Dieu. Quels sont donc les cadeaux de Dieu dans ce contexte, dans Corinthiens 12 ? Ils sont nombreux. Il y a une première liste dans les versets 8 à 10, puis une autre dans les versets 28 à 30, puis on en a une autre dans Romains 12, 6 à 8, Éphésiens 4, 11 à 16, 1 Pierre 4, 10 à 11. Pour la faire courte, c'est infini les dons de Dieu. Ce ne sont pas d'abord des talents particuliers, mais bien des ministères, des services, des actions. C'est ainsi que le don de Dieu peut être un apôtre, un envoyé, ou des guérisons, ou le service, ou la direction. Bien sûr, un ministère va requérir une aptitude, mais en premier lieu, il s'agit d'un cadeau. 1 Pierre 4, verset 11, parle des dons infiniment variés de Dieu. Ce qu'il me faut retenir de cette grande diversité de dons, c'est que tous n'ont pas le même don, verset 29. Tous ne parlent pas en langue. Tous ne viennent pas en aide aux pauvres. Tous ne prêchent pas. Pourquoi tellement de diversité? Alors je crois que le verset 7 le dit clairement. La manifestation des dons de l'Esprit, c'est pour le bien de tous, pour l'utilité commune. Ce n'est pas pour que je m'épanouisse personnellement. Quand je reçois un don, c'est pas pour que je prenne mon pied, quel que soit mon don. C'est pas pour que je m'accomplisse. C'est pour que l'Église s'épanouisse. J'y trouverai mon bonheur, j'ai aucun doute là-dessus, parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, a dit Jésus. Mais un don reçu, il n'est pas pour moi. Il est pour que l'Église s'épanouisse. J'y trouverai mon bonheur. Seulement si je pense aux autres. Sur la diversité des dons, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, surtout si nous avions envie d'entrer en détail dans chaque don. Mais j'en reste aux grandes lignes. L'universalité de l'action de l'Esprit dans l'Église, la variété de l'action de l'Esprit dans l'Église, et maintenant la souveraineté de l'action de l'Esprit dans l'Église. Et le verset clé ici, c'est le verset 11. C'est le seul et même Esprit qui produit tout cela. Il accorde à chaque personne un don différent comme il le veut, comme il le veut. Il est souverain. Il est souverain, le Saint-Esprit. Comme il le veut. La diversité des dons et des services dépend du Saint-Esprit. Au verset 18, nous lisons « Dieu a disposé chacune des parties comme il l'a voulu. » Et au verset 28, c'est Dieu qui a établi dans l'Église une grande diversité de ministères. Notre Dieu est souverain dans l'aménagement de son Église. La souveraineté de l'action de l'Esprit doit m'empêcher donc de faire des comparaisons inutiles, que ce soit pour me déprécier ou pour déprécier mes frères et sœurs. L'orgueil est exclu. La jalousie est exclue. Nous sommes tous et toutes au bénéfice des dons de Dieu et tous et toutes appelés à servir Dieu au mieux de ce qu'il nous a donné. Et j'essaie là d'écarter rapidement un faux problème. Si c'est Dieu qui distribue souverainement ses dons, nous pourrions parfois penser que notre rôle à nous est purement passif. Nous pourrions nous installer dans un fauteuil, sur une chaise, et regarder travailler les autres, en attendant que le don de Dieu nous tombe sur le coin de la figure. Mais ce n'est pas ça. Tous et toutes, sans exception, nous sommes appelés à servir, d'une manière ou d'une autre. Et tous et toutes, selon le verset 31, nous sommes appelés à aspirer aux dons les meilleurs. On peut avoir envie d'aller plus loin. On doit avoir envie d'aller plus loin. On peut se perfectionner en se soumettant à la critique constructive des autres ou en se formant. Et on peut se lancer dans des choses nouvelles. Jamais la souveraineté de Dieu dans l'Église n'anéantit la responsabilité humaine. C'est à nous de mettre en œuvre notre salut, parce que c'est Dieu qui est à l'œuvre en nous. Alors on y va. Enfin, la cohérence de l'action de l'Esprit dans l'Église. Verset 11. C'est le seul et même Esprit qui produit tout cela. Il accorde à chaque personne un don différent, comme il le veut. À chacun, ça c'est l'universalité et c'est aussi la diversité des dons. Comme il le veut, c'est le choix souverain de Dieu dans l'attribution de ses dons. Un seul et même Esprit, c'est l'unité et la cohérence de l'action de l'Esprit. Parfois, nous parlons de la diversité dans l'Église et dans la société de manière très positive. Et je crois qu'il est juste de le faire. Mais parfois, les gens parlent de la diversité sans se soucier de la cohérence. Ou alors, la seule cohérence qu'ils imaginent, eh ben, c'est que tout le monde, finalement, est obligé de leur ressembler. Il faudrait que tout le monde soit comme moi. Fasse comme moi, pense comme moi, dise comme moi, s'exprime comme moi, s'engage comme moi. Ceux-là se sentent menacés par la différence en réalité. Et comme Louis XIV, par la présence des protestants en France, ou comme Pétain, par les juifs, menacés. La cohérence de l'action de l'Esprit dans toute sa diversité, c'est que tout s'articule dans un seul et même corps. Mais cette diversité, elle s'organise de façon cohérente. On ne tire pas à U et à Dia. On ne va pas un temps ici et un temps là. Il y a une cohérence. Les parties du corps sont en relation les unes avec les autres. Elles servent un dessein commun. Elles ont besoin les unes des autres. Elles sont affectées par ce qui se passe en bien ou en mal pour les autres parties du corps, comme le verset 26 le dit. Affectées par ce qui se passe en bien ou en mal dans les autres parties du corps. Quand je rêve, je me dis que la diversité sociale devrait être comme ça. Et puis je reviens à la réalité, je sais que ça ne marche pas dans le monde. Mais je ne rêve pas. Et à cause de l'action de Dieu, je crois que la diversité dans l'Église doit être comme ça. Peut être comme ça. Je conclus avec la dernière parole de l'apôtre dans ce chapitre. Aspirons donc aux dons les meilleurs. Les meilleurs, ce sont ceux qui me permettent de servir les autres dans la soumission à Jésus-Christ qui est la tête de l'Église et pour le bien et la croissance de l'Église dont il est le chef. Que Dieu nous soit en aide. Amen.
Le Seigneur nous invite maintenant à nous souvenir de son œuvre accomplie pour nous à la croix. Je lirai un verset. Pensez à la coupe du repas du Seigneur pour laquelle nous bénissons Dieu. Lorsque nous en buvons, ne nous met-elle pas en communion avec le sang du Christ? Et le pain que nous partageons, lorsque nous en mangeons, ne nous met-il pas en communion avec le corps de Christ? Il y a un seul pain. Aussi, bien que nous soyons nombreux, nous formons un seul corps, car nous avons tous part au même pain.
Nous prions. notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour l'œuvre de la croix. Nous te remercions pour Jésus, notre Sauveur, qui a pris sur lui nos fautes pour nous permettre de vivre en nouveauté de vie. Et nous te remercions pour le Saint-Esprit que tu as abondamment répandu, qui nous permet de nous adresser à toi, qui nous équipe pour te servir. Ensemble, nous nous réjouissons de prendre cette scène, de communier au corps de Christ, de nous souvenir aussi de ton Église sur la surface de la terre et de nos frères et sœurs en la foi partout dans le monde. Nous te prions de rendre ta présence sensible, en particulier à celles et ceux qui vivent sous la persécution, dans des lieux de guerre, dans l'exil, celles et ceux qui sont malades, esselés, affaiblis. Nous pensons à eux et nous savons que toi, Seigneur, tu es à leur côté et nous te les recommandons. Fais-nous cette grâce ce matin de discerner la richesse de ton œuvre au travers de ce pain, de ce vin, en toute simplicité. Nous voulons le prendre en souvenir de Jésus et dans l'heureuse perspective de partager un jour ce repas dans l'éternité avec ton peuple en entier et l'agneau immolé. Que ton nom soit loué. Amen.
Amen.
Nous allons maintenant passer le pain et le vin. Je rappelle que les petits gobelets roses au centre contiennent du jus de raisin. Et on vous demandera de tous garder le pain et le vin pour qu'on puisse les prendre ensemble ensuite, quand tout le monde sera servi.
Merci, Seigneur, d'être venu dans l'humilité pour régler une fois pour toutes le problème du péché et nous en libérer. Ton sang a coulé sur la croix pour chacun de nous. Merci, Seigneur.
Jésus s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare « Jésus-Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père.
Quel amour pour moi, quelle patience, tu as conduit vers toi mon ignorance, comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur merveilleux, comment le vivre?
promesse. Je suis avec vous tous les jours. Supposons que je vienne vous rendre visite demain matin. Je frappe à la porte, mais personne n'ouvre. J'écoute et j'entends des bruits venant de l'intérieur. Il y a quelqu'un à l'intérieur, me dis-je, et ils ne veulent pas ouvrir la porte. Je frappe à la porte de toutes mes forces. Pas de réponse. Alors j'ouvre la porte et j'entre. Et vous êtes là. Bonjour, comment ça va? Vous ne répondez pas. Au lieu de cela, vous partez dans la cuisine. Alors je vous suis. Je suis venu vous rendre visite. Vous m'ignorez et commencez à éplucher les pommes de terre. Ce travail terminé, vous vous dirigez vers une autre pièce que vous commencez à nettoyer. Encore une fois, je vous suis. Vous allez au supermarché, puis à la banque, et je vous y accompagne. Je vous suis ainsi toute la journée sans que vous ne m'adressiez une seule fois la parole. Le lendemain, je reviens de nouveau chez vous. Vous agissez comme si vous étiez totalement inconscient de ma présence. Le dimanche, vous venez au culte et vous m'y voyez. Vous dites « Oh, comment allez-vous? Cela me fait plaisir de vous voir. » Vous agissez comme si cela faisait longtemps que nous ne nous étions pas vus. Je ne comprends pas. « Je viens de passer toute la semaine avec vous, lui dis-je. » C'est ainsi que nous faisons avec Jésus. Il est avec nous pendant toute la semaine, mais nous attendons le dimanche pour sentir sa présence. Nous le traitons comme s'il n'était pas avec nous en permanence. Nous ne lui faisons pas confiance alors qu'il est toujours avec nous. Quand Jésus vient dans une église, ce n'est pas pour y passer seulement une heure ou deux le dimanche. C'est pour jouir d'une communion continuelle avec nous chaque jour de la semaine. Quand il vient, il ne nous quitte plus. Il désire que nous soyons certains de sa présence 24 heures par jour. Il est temps que nous prenions conscience chaque jour de sa présence. Je vous demande de vous lever, s'il vous plaît. Un verset. Vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie 29, 13. Allons en paix et que cette semaine, nous soyons sans cesse en communion avec Jésus. Amen. Quelques annonces, vous pouvez vous asseoir.
Bonjour. Donc, les paquets de Noël, on continue. J'ai mis sur le panneau bleu dans le foyer une feuille pour vous inscrire pour la confection des paquets. D'habitude, on fixe une date et puis souvent, ça ne joue pas pour l'un pour l'autre. Donc là, vous vous inscrivez en mettant les dates qui vous conviennent et en fonction des inscriptions, on fixera définitivement la date où on fera les paquets, là où il y a plus de monde. Voilà, donc je vous laisse vous inscrire là-bas. Pour les dons en nature, j'ai mis une caisse où vous pouvez mettre vos choses dedans. Tenez-vous-en vraiment aux billets que vous prenez et apportez juste ce qui est sur les billets. Les autres choses seront achetées, donc. Et donc, pour les achats, vous pouvez contribuer en mettant de l'argent. Il y a une tirelire à la sortie, il y en a deux dans le foyer et on fera les achats avec tout ça. Je précise encore juste pour les dons en nature, ce serait bien que vous apportiez avant la fin du mois, donc avant fin, d'ici fin octobre les affaires, parce que début novembre, on fera les paquets. Donc, merci beaucoup.
Bonjour. C'est intéressant cette histoire de dons, c'est toujours très positif. Et pourtant, certains ont le don de nous énerver. Hein? Ça peut arriver. C'est peut-être pas trop à développer, mais voilà. Petit exercice assez sympa. Des fois, on a de la peine à noter nos dons ou ce qui est de nos capacités. Ça serait intéressant d'échanger avec quelqu'un qui note à votre place. Parce que des fois, le regard des autres ne correspond pas forcément à ce qu'on a noté. On a tendance un petit peu à se mentir à soi-même parce qu'on souhaite adhérer à un don qu'on n'a pas forcément. Et à ce sujet, c'est assez intéressant. Vendredi, j'ai assisté au forum des décideurs chrétiens. Et puis, un intervenant qui a raconté une petite histoire juive, elles sont toujours assez drôles. C'est l'histoire d'Isaac qui arrive à la fin de sa vie et puis qui a un petit peu peur de rencontrer Dieu. Et puis voilà, le moment de sa mort est arrivé et puis il se retrouve devant Dieu. Et Dieu lui pose deux questions. Comment t'appelles-tu ? Isaac. Isaac, dans ta vie, as-tu été Isaac ? Très intéressant de savoir si on vit la vie que Dieu nous donne ou si on vit une autre vie. Je vous laisse avec ça. Comme ça, vous passerez un bon dimanche. Pour cette semaine, mardi 11 octobre, les ateliers bibliques à 20h15 ici à l'EM. L'alliance avec Abraham, terre et bien plus avec Philippe. Mercredi, le CTT des 20h, donc c'est pour les 15-25 ans. Pour les jeunes de 11 à 15 ans, il y a le caté vendredi 14 octobre dès 17h. SOFR, ça sera un petit peu plus tard cette fois-ci parce qu'il y a repas et ateliers pratiques. Et SOFR, on peut dire le menu ?
Une partie.
Je ne
sais pas, Joël. Le pâtissier est là. Surprise.
Les hot dogs avec les fameux crispy dessus. Ok, très bien. Et puis la semaine passée, donc, vous aviez appris que le 23 octobre était un dimanche. Alors je continue les informations supplémentaires. Comme vous savez que c'est un dimanche, c'est le culte d'installation de Célina. Vous avez reçu un rappel, un actumérin. Il faut s'inscrire. Donc en ligne, vous pouvez vous inscrire. Et puis il y a aussi la possibilité de s'inscrire sur le tableau. Et notamment pour des bénévoles, pour aider, soit pour apporter une salade, soit pour aider à servir durant le repas. Donc, important de vous inscrire, sachant qu'il y a aussi tout un programme qui est prévu pour les enfants. Ensuite, la grande semaine, est-ce que tu veux dire quelque chose, Roger ? Non ? Je t'ai pris le flyer.
Tu me prends à chaud là, ou à froid. La grande semaine, donc on va prendre possession des lieux gracieusement mis à disposition par notre église, juste après le 23. Donc nous serons là avec des enfants, entre 50 et 60 enfants, du lundi au vendredi, avec des bricolages, des jeux et des histoires inspirées de la Bible. Tout ça, c'est en train de se mettre en place. On se réjouit beaucoup et on vit spécialement les gens extérieurs de l'Église, mais soyez aussi concernés par cette semaine. Nous remercions de nous accompagner aussi par vos prières et votre soutien. Vous pouvez aussi venir nous dire bonjour. Il y a quelques personnes aussi de l'Église qui participent à cette semaine et on se réjouit beaucoup de vivre ça. Merci. Oui.
Sur le sujet de la grande semaine, moi je fais un atelier et pour cet atelier j'aurai besoin des serviettes en papier avec des sujets. Alors si quelqu'un a des serviettes de papier qui restent à la maison, qu'il n'utilise plus, je suis preneuse parce que les enfants vont les mettre sur du bois. C'est le technique de serviettes et pour ça j'ai besoin des serviettes en papier.
Avec des motifs,
ouais, surtout avec des motifs dessus. Merci.
Merci. Encore un peu de publicité pour WAN. Vous avez des flyers qui sont à l'extérieur. Donc c'est cet événement qui se passe à Fribourg et qui est fait
pour non seulement les familles, mais il y a en tout cas l'accueil pour les familles. Et puis profitez parce que vous avez des orateurs qui sont géniaux, mais surtout que jusqu'au 31 octobre, il y a encore une prélocation qui donne un prix avantageux. Sinon, sur place, c'est un peu plus cher. Donc je vous invite à regarder sur le tableau d'affichage, vous avez quelques flyers comme ceux-ci. Encore un mot pour vous dire que l'Église vit de dons, comme on l'a entendu ce matin. Et puis, vous pouvez faire vos dons via le CCP ou la collecte qui se trouve, votre offrande que vous pouvez mettre dans le petit panier ou via Twint à l'arrière, au fond de la salle. Merci en tout cas pour votre générosité, parce que c'est comme ça qu'on peut faire fonctionner notre Église, avoir des pasteurs qui sont à disposition. Et je laisse la place à Céline.
Moi, je n'ai pas forcément une super bonne nouvelle à vous annoncer. C'est le décès de notre sœur Marthe Hilg, qui nous a quittés jeudi, entourée de ses filles. La cérémonie aura lieu vendredi 14 à 13h30 au temple de Gento. Donc Marthe, elle était depuis déjà 3 ans en résidence à l'EMS du Grand Saconnet. C'est la maman de Prisca Schmitt, et du coup la grand-maman de Mathieu, Lauriane et Lionel. Et on peut vraiment penser à eux pour ce moment. Elle est partie vraiment en paix et on peut être reconnaissant pour ça. Et j'aimerais prier juste pour la famille, puis aussi pour remercier Dieu de nous avoir permis de la connaître. Seigneur mon Dieu, je te remercie pour cette vie qui a été celle de Marthe, qui nous a accompagnés pendant un moment, même si pendant ces dernières années, elle n'était pas là. Elle reste un témoignage fort d'humilité pour nous. Je te prie que tu puisses accompagner de cette famille qui est dans le deuil, que tu puisses lui apporter ta présence, ta paix et ta consolation. En ton nom, Jésus. Amen. 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 Et puis, je vous souhaite une bonne semaine à chacun.